Alors, c'est vrai pour la dernière fois, le reste de l'année. Et comme vous savez, il y a cette exigence qui est la nôtre de faire en sorte que sur la Terre, il y a quelques-uns qui demandent, qui fassent la supplication dans une miséricorde prévenante. Pour ce qui est des questions de micro, je suis désolé, mais vous partez avec Didier. C'est lui qui s'occupe de ça. C'est pas moi. Vous avez des écouteurs, si vous voulez, vous avez même des... C'est tout ce qu'il faut. Hey, il y a des casques aussi. Si vous même avec des micros, ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Il y en a quelques-uns qui pensent, parce qu'ils le comprennent, qu'ils doivent rentrer dans une miséricorde prévenante. Il y a beaucoup, beaucoup d'appelés de très grands saints, de très très grands saints, d'immensément grands saints, qui ont compris qu'ils étaient appelés, choisis par Dieu après la Pentecôte. Mais... Et il y en avait très peu qui ont compris qu'ils étaient choisis par Dieu pour servir d'instrument pour la rédemption du monde. Et une quarantaine d'années avant. Avant qu'il y ait cette Pentecôte. En fait, une cinquantaine d'années. Et les catholiques sont ceux qui, sur la terre, sont ceux qui ont été appelés par Dieu à entrer dans la septième demeure de l'union transformante d'une manière telle qu'ils puissent être des instruments d'amour pour la Pentecôte à venir. Il y a un jubilé, vous savez, le jubilé c'est tous les 50 ans. Une fois tous les 50 ans. Donc le Saint-Père a ouvert le jubilé. C'est pas rien. Il a ouvert le jubilé au jour de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. C'est excessivement rare. Pour faire comprendre que dans le nard de Saint-Joseph émane l'Immaculée Conception. Vous savez très bien que le Saint-Père, le pape François, dans le silence de la bénédiction infaillible de l'Église, le pape Benoît, proclame la naissance et avec son pouvoir des clés ouvre les portes. Ces portes qui s'ouvrent, c'était beau d'ailleurs quand nous y étions. C'était très beau, c'était très émouvant de voir ces deux papes qui s'embrassent et puis sortant, sortant de ses bras, pape François a ouvert les portes saintes. Et derrière lui, le pape Benoît est passé. Deux papes pour ouvrir une porte sainte. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église. Tu sais, pour ouvrir une porte, il faut deux mains. Deux bâtons. Ça. Et alors, ça faisait. Et nous, nous sommes passés par derrière. On s'est mis à genoux et on a reçu. On a reçu, on va apprendre ça parce que nous allons rentrer dans cette grâce qui n'arrive qu'une fois tous les 50 ans. Elle nous est ouverte ici à Cavador, hein? Et on y rentrera. On va apprendre à la recevoir, et à lui faire donner son fruit. l'époque de saint Hildegarde, il y a 888 ans, il y avait aussi deux papes. C'est très rare, vous savez, dans l'histoire de l'Église. Deux papes qui s'entendaient bien. Et vous savez très bien que quand il y a eu ces deux papes à l'époque de saint Bernard et saint Hildegarde, ça a été une source de renouveau spirituel, marial, pour mille ans. C'est bizarre, hein? Ça s'est passé. Là, c'est la troisième fois que ça se passe. C'est pas la première fois qu'il y a deux papes. C'est un très grand moment, ça veut dire beaucoup de choses. À l'époque des Lachis d'Israël, de Moïse jusqu'à Jésus, les Lachis d'Israël communiquaient la doctrine infaillible de la lumière céleste à la terre de manière féconde, efficace, pénétrante et transfigurante. D'une transfiguration qui se voyait à la lumière des yeux des fidèles. Deux par deux. Toujours, les nations d'Israël, toujours deux par deux. Toujours. Moïse, Aaron. Élie, Élisée. Et tous les fils d'Israël, pendant 1300 ans, connaissaient la succession infaillible apostolique des nations d'Israël. Depuis Moïse, jusqu'à Jésus. Les enfants à 12 ans connaissaient la succession et pouvaient citer les noms. Les deux papes, vous savez, Nachi, et à leur époque, c'était, vous savez bien, Hillel et Shammai. C'est la signification qu'il y a deux, plutôt qu'un. Et ça sera produit trois fois dans l'histoire de l'Église. Il y a une signification aussi, bien sûr. C'est à l'époque de saint Bernard hein, qu'il y a eu cette grande prophétie qu'il y aurait 111 papes. Suite de saint Michel Archange pour le combat spirituel final. Le 111e et le 110e, ce sont ces deux papes-là. Je suis le successeur de Pierre. Et l'autre a dit, je suis le pape. Il y a deux papes, c'est Pierre II, n'est-ce pas, le 11e. C'est quelque chose de très fort. Vous voyez, il y a une chose qu'il faut pas oublier. Parce que le démon, n'est-ce pas, en particulier sur la toile, n'est-ce pas, n'aime pas ça. Quelqu'un qui m'a raconté, qui était témoin, que quand le pape Benoît XVI a donné sa démission, on l'a appris au roi Hérode qui règne sur la France. Il n'est pas du tout juif, il n'est pas du tout français. Hollande, c'est pas la France, Hollande. Il est collé avec une Allemande, et son prédécesseur était hongrois, collé à une Italienne. Parce que c'est pour un premier ministre espagnol qui vient avec une collée avec une palestinienne, enfin une juive. Une telle avivienne. Le roi Hérode n'était pas juif, il n'était pas roi des juifs. Bref, quand le roi de l'Israël, de Dieu, a appris que le pape donnait sa démission, il paraît qu'il a fait une horrible grimace. C'est extraordinaire ça. C'est un témoignage vivant, on dit. Oh. C'est le coup, ouais, le coup qu'ils n'attendaient pas. Le coup que le démon n'attendait pas. La surprise du Saint-Esprit toujours. Hein. Prends l'enfant, prends la mère, et pars en Égypte. Et immédiatement, il part. Saint-Joseph part tout de suite. Joseph. C'était extraordinaire de voir que, vous voyez, sur les âmes, je vous l'ai déjà dit, parce qu'on fait la messe du soir, on fait une messe à titre non pas royal ni sacerdotal, mais à titre prophétique. C'est une messe docile, c'est une messe d'ouverture des temps. C'est une messe où on demande pardon avec la nature humaine tout entière, unanime dans l'indivisibilité d'un seul cri. Saint Jean, dans l'Apocalypse, nous a dit que ça ne se produira qu'une fois dans l'histoire de l'humanité, depuis le début de la création jusqu'à la fin. Une seule fois. Et c'est nous qui serons les instruments de ce cri unanime dans l'indivisibilité de la nature humaine. Et nous célébrons la messe de manière prophétique pour en vivre en cet instant d'une manière dans la miséricorde prévenante. Dans la miséricorde prévenante de Dieu. Dans la miséricorde prévenante de l'Immaculée. La conception de la Jérusalem glorieuse. Cette messe du soir est très importante, vous savez, pour nous. Elle est très nécessaire. Et je prends, et je crois qu'il faut qu'on se rappelle bien le message que nous donne l'infaillibilité de l'Église. N'oubliez pas quand même, hein, avant d'entendre tous les cris de la mauvaise servante au feu dans le camp et du grand prêtre qui va condamner le Christ, les cris qu'on trouve dans cette cour au coin du feu. Ils ont réussi à troubler, hein, Saint-Pierre. Ça a fini par le troubler. C'est une ambiance dans laquelle nous ne rentrerons pas. Parce que si quelqu'un commence à se laisser troubler, alors il reniera. Inexorablement. Il ne rentre pas dans la grâce de Saint Jean. Il ne rentre pas dans la grâce mariale joannique de l'Apocalypse. Il n'y rentrera jamais. Et il n'aura pas vécu du fruit de la communion eucharistique qui vient d'être célébrée et qui s'est inscrit par assimilation au Verbe de Dieu dans son cœur. Et pour ça, il faut être extrêmement attentif, justement, au message qui est donné par cet écoulement infaillible de la doctrine pacifiante, source de toute pacification universelle du Saint-Père. C'est pour ça que vous voyez, on fait nos anciennes prières avec Sainte Hildegarde, en communion avec le Saint-Père et missionné par le Saint-Père. Ce ne sont pas des prières comme ça. C'est une mission invisible des personnes divines dans notre âme, dans l'âme de l'humanité tout entière. C'est une mission, je le répète, c'est une mission invisible des personnes divines dans l'âme de la nature humaine tout entière. Je répète une troisième fois. C'est une mission invisible des personnes divines dans l'âme de l'humanité tout entière. C'est le catéchisme de base de Saint Thomas d'Aquin et de Saint Jean. On doit vivre des deux mains qui s'enfoncent dans le sein des saints. Ces deux mains, c'est la mission invisible de l'Esprit Saint. Dans l'âme de la nature humaine tout entière. Et c'est la mission invisible du Verbe de Dieu. Dans l'âme de la nature humaine tout entière. Et lorsqu'on plonge les deux mains dans un seul acte indivisible, on rentre dans la communion eucharistique joannique de Marie avant la passion du Christ. Et on ouvre une porte à la rédemption du monde dans laquelle Pierre n'a pas pu rentrer parce qu'il a écouté son doute. Il a écouté les bruits, l'esprit du monde. Il a regardé ce qui sortait de l'image. Il n'a pas regardé la réalité surnaturelle et spirituelle du fruit du sacrement. Et le pape nous indique ça. Vous êtes arrivés à cette heure. On doit écouter le pape. Il ne faut pas oublier non plus une troisième chose. C'est que quand même, l'heure prophétique est arrivée. Et l'heure est donnée par les nations d'Israël et par la succession infaillible du pouvoir des clés du Saint-Père. Et que les trois dernières fois où cette heure a été offerte divinement, du ciel à la terre et de la terre au ciel, ça a donné quand même trois grande fécondité qui n'avait pas été ouverte à notre corps, à notre chair, à notre sang. Avant, les trois derniers dogmes, c'est l'infaillibilité. C'est l'Assomption, c'est l'Immaculée Conception. Ça, faut garder ça, hein. Faut garder ça, hein. Ça, faut garder ça, ça. Inodorem suavitati. Inique paxio sublimis. Ne prévaudront jamais. Au contraire, jamais. 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 Et c'est sûr. Il y a des gens qui là derrière. Regarde bien où se trouve le talon en disant. Attends. Attends un peu. Tu vas voir ce que je dis. Jésus-Christ, en instituant l'Eucharistie, a institué le sacerdoce. Le sacrement du baptême n'est pas tout seul. Il y a sept sacrements. Et dans chaque sacrement, il y a une floraison de chacun des sacrements. Et ce qui compte, c'est la récolte finale de la Jérusalem spirituelle, de l'Église catholique, dans le fruit des sacrements. Et il y a un lien. Pourquoi ? Parce que Pierre n'a jamais quitté Jean. Et Jean n'a jamais quitté Pierre. Il ne faut jamais regarder Pierre tout seul. Parce qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Les Nachis d'Israël se sont succédés les uns les autres depuis 3,3 ans. Et nous, on voudrait les disloquer. Et on se laisse troubler par ça. On ne sépare pas ce que Dieu veut. Il y a quelque chose dans le sacerdoce joannique qui va jusqu'à la fin, tu penses. Il y a quelque chose dans le sacerdoce pétrinien qui va jusqu'à la fin de la communauté apostolique originelle. Il y a du corps primordial au corps accompli final un lien de nécessité. Et ce qui fait l'unité entre les deux, c'est Marie. Marie fait l'unité. Et une fois par an, nous fêtons la maternité divine de Marie. Et c'est cette nuit. Ah là, on peut prendre du cidre. Pour redevenir normand, là. Écoutez, qu'est-ce qui a marqué? Et vous le savez très bien. Mais moi, je ne m'arrête pas de le regarder parce que je trouve ça tellement incroyable, tellement, c'est croyable justement, c'est objet de foi, mais c'est tellement étonnant. Il y a la conversion d'Israël, l'intégration de l'islam, de tous les enfants d'Ismaël dans le corps mystique du royaume du Sacré-Cœur de Jésus à partir de la France. La Russie, l'ours. Et tout ce qu'ils entraînent dans l'athéisme mondial pour porter la sainteté du Saint des Saints dans la sainteté de Dieu et vers l'union de sainteté. C'est ça qui est porté sur les armes de Benoît. Vous savez, toutes les nuits, on fait comme lui, il a ouvert les portes, hein, de la bénédiction. à l'intégration des enfants d'Ismaël, à l'intégration des enfants d'Israël. Et à l'incorporation, un seul troupeau, un seul pasteur, d'une humanité qui, elle, jusqu'à maintenant, était toujours à vouloir se vociférer, à se précipiter sur l'âne. C'est terrible cette histoire. Je ne sais pas pourquoi les ânes, il n'y a rien de plus pacifique qu'un âne. Pourquoi l'ours se précipite sur l'âne? Dès qu'il s'agit de l'âne, ben, du roi, du premier ministre, jusqu'au plus, il se précipite pour dévorer ça. Ils n'aiment pas l'âne. Moi, je viens de subir des interrogatoires à cause de l'âne. Des interrogatoires policiers. La Gestapo d'aujourd'hui. Vous connaissez ce qu'il y a sur les armes du Benoît XVI? Il y a l'ours. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'ours, eh bien, un jour que Pierre et Jean d'ailleurs avaient envoyé un évêque, un successeur des apôtres pour la Bavière, pour le nord, pour le pays du nord, il traverse les forêts pour le nord de l'Italie. Avec son âne, avec toutes ses affaires, pour célébrer la messe, le calice, les objets précieux, tout ça. Et un ours sort de la forêt. Et puis ça bat sur l'âne. Et l'âne est dévoré. Alors, le successeur des apôtres, envoyé par Pierre, le représentant du Christ, prend sa crosse, ça. Prend sa crosse et puis il dit à l'ours, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de porter le fardeau que mon âne portait pour que je puisse évangéliser tout le pays du Nord. Alors l'ours a porté tous les fardeaux, le fardeau des saints, pour la sanctification de tout le pays du Nord. Pour ça que l'ours représente le niveau, comment est-ce que vous avez les blasons, tout ça, ça a un niveau loin, bon. Représente la Russie. Représente l'athéisme aussi. Ainsi, les âmes, le Benoît XVI, vous avez ces trois. Vous avez le mort qui représente l'islam, qui est le principal à recevoir la couronne du règne du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier à partir de la France. Vous avez la coquille, ça représente Saint-Jacques. C'est-à-dire qu'elle représente le terme de la vocation d'Israël qui est réintégré dans le sceau du Saint-Père. Et puis l'ours, l'humanité tout entière, qui se met au service des saints. Et il faut associer à cela la petite grappe. Pape François, c'est Saint Joseph. Saint Joseph, quand il est enfant. Saint Joseph, quand il a 2 ans. Quand il a 3 ans. Et moi, je peux vous dire, quand il a 6 mois, avant la naissance. Saint Joseph, c'est la tradition catholique, hispanique. C'est une très grande dévotion. C'est une très grande vision du Père. Du véritable Adam, principe de l'Immaculée Conception. Il porte le nard, c'est-à-dire il porte dans sa main droite, c'est-à-dire dans son acte, mission invisible des deux personnes, divine, du Verbe de Dieu et de l'Esprit Saint. Il porte dans son corps originel, dans la demande d'absolution pour la nature tout entière. Il porte le parfum de l'union hypostatique des chers de Jésus. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et c'est sa spiritualité continuelle et continuellement occupée à actuer la mort du Père dans l'union hypostatique déchirée du futur agneau de Dieu. Et ceci, déjà 9 mois avant sa naissance. Ça a été sa manière de demander pardon pour le péché originel. Nous avons tous été créés, puis on est allé vers ce monde du péché originel. Nous avons eu un mouvement libre, lucide, vers ce monde du péché originel. Mais aussitôt qu'il a fait ce premier mouvement vers... Il a eu un arrêt, lui. Nous n'avons pas eu cet arrêt, non. Il a eu un arrêt, lui. Il y a un arrêt. D'ailleurs, ça lui est resté, hein. À chaque fois il s'arrête. Saint-Joseph. Mais ça ne dure pas longtemps, tout de suite après il obéit. Immédiatement il demande pardon. C'est le premier de tous les hommes à avoir demandé pardon pour ce mouvement vers le péché originel. Il a demandé pardon. Et l'ange lui a appris dans l'illumination du Verbe de Dieu, dans une grâce propre à la transverbération. Ce n'était pas une grâce. Surnaturel, sacramentel, catholique, oui, c'est une grâce de transverbération. Mouvement qui vient d'une mission invisible, en raison de son désir, de sa liberté, parce qu'on est très libre, vous savez. Il demande pardon dans l'absolution du Verbe incré de Dieu dans l'union apostatique des cirés de Jésus, parce qu'il est très très proche de la paternité du Saint des Saints de Dieu. Il demande pardon avec l'absolution terminale de l'Église. Et il en a conscience. On ne sait pas assez, on ne se rappelle pas suffisamment que dans les premiers instants de notre vie embryonnaire, nous avons une liberté totale. Une lucidité totale. Une vie contemplative parfaite. Une intériorité humaine normale, capable de recevoir une plénitude de vie naturelle. Et nous en avons la preuve dans le mystère de l'Immaculée Conception. Un amour qui dépasse tout amour et qui fait l'admiration du ciel tout entier et du monde angélique. Nous avons fait. Nous avons été objet d'admiration. Nous avons nous-mêmes admiré dans ce oui extatique de notre origine, de notre liberté dans l'ordre du temps. Nous avons admiré cette admiration elle-même. Et donc, ce qu'il y a de plus admirable, là où ça s'est réalisé d'une des manières vraiment les plus admirables, c'est avec Saint-Joseph. Et donc, Saint-Joseph, du coup, à partir de ce jour-là, il a fait émaner le parfum. C'est un mélange de rose, de jasmin et de lys. Le nard. Est-ce que vous avez déjà respiré le nard? La 10e centime abominable, elle émanait du nard. Je ne sais pas comment dire, je l'ai dans mon hermitage. C'est un parfum spécial. On ne doit plus en faire beaucoup parce que ça coûte cher. Et Marie-Madeleine a répondu du nard sur les pieds de Jésus. Jésus a dit, on parlera de ce qu'elle a fait. C'est à la fin du monde qu'on en parlera, dans toute la terre. Et le pape, il met ça sur ses armes. C'est lui qui décide, c'est maintenant qu'il faut en parler. Ça, c'est François. Il dit, c'est ma spiritualité, ça. Je vis ce que Saint-Joseph vit dès les premiers instants après sa conception. Pour que ce nard puisse transformer son corps en train de se développer. Vous rendez compte quand même que toutes les cellules embryonnaires de Saint-Joseph, faudrait expliquer ça à tous les médecins, en cours de métaphysique médicale, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui se passe? La multiplication de cellules embryonnaires, totipotentes. Il faudrait passer les cours de la médecine, des cours de génétique. Mais il faudrait faire les cours de médecine deviennent des cours de médecine métaphysique. Les cours de médecine et de génétique métaphysique. Si tu regardes uniquement les cours de médecine génétique, du microscope électronique. Rien. C'est une chute dans la matière. Mais d'une matière informe cette fois-ci. Pas d'une manière en puissance, comme dans le principe. Et donc c'est une manière de nous projeter en dehors du principe, de donner des cours de ce genre. Absolument, quoi, qu'on puisse avoir cette respiration. Hein. Eh bien, le pape nous ordonne, nous demande qu'on prenne qui pourra. Hein. Il met une petite grappe. Tu comprends si tu veux. Mais il révèle quelque chose. Regardez, c'est difficile de donner un témoignage sur ce qu'on a vécu dans notre union avec Dieu, la découverte de Dieu. C'est pas facile. D'être bref, court, précis. C'est pas commode. Hein. Lui, il l'a fait en une seule fois. Il dit voilà ma spiritualité. Ma spiritualité, c'est de laisser passer, j'allais dire, cette union hypostatique de Jésus ouverte, le parfum dans ma sépulture qui a duré 36 heures dans le cœur de Marie de Saint-Joseph. Ce qu'il a vécu lui-même, Saint-Joseph, pour demander pardon. Il a demandé pardon dans une miséricorde prévenante. Vous savez, une année de miséricorde, une année jubilaire de miséricorde, c'est pas tous les 50 ans. C'est, je sais pas combien, il faudrait calculer, mais sur 2000 ans, ça s'est passé peut-être 4 fois, pas plus. La miséricorde prévenante, c'est la grâce de Jésus en plénitude avant qu'il n'arrive. Miséricorde prévenante, notre vie catholique est une vie prophétique. Nous célébrons 3 fois la messe parce que la messe doit être royale. Voilà pour la nuit. Sacerdotale, voilà pour l'aurore. Prophétique, voilà pour la fécondité pour tous les temps. On efface. Les obstacles qui se prennent sur la route dans l'unification intérieure de la lumière qui vivifie chaque instant présent, dans l'avènement du royaume de Dieu, jusque dans le mystère de l'agneau et le baiser du véritable amour. Vous comprenez? C'est élémentaire pour nous, ça. C'est la première chose. Si on ne commence pas par ça, c'est fini notre vie de chrétienne, notre vie surnaturelle. Alors, on va avoir une vie chrétienne extérieure, vous savez. On va discuter avec la servante au coin du feu. Tu vas voir, ouais. On discute toujours. Celui qui discute, je vous le dis, ça, je peux vous l'affirmer. Il reniera. On ne discute pas, vous savez, quand on reçoit l'Eucharistie. On reçoit la grâce libre de Dieu. Et c'est lui qui trace le chemin. Nous sommes des disciples. Nous sommes de la 10e hiérarchie, dans la viridité du corps originel, où nous sommes rois fraternels de l'univers. Et cette royauté, cette royauté d'amour, elle est sponsale. Elle est sponsale par nécessité. Elle est sponsale par nature. Et elle est sponsale par appel à gré de Dieu sur nous. Comme vous m'avez entendu dire souvent, priorité absolue à la sponsalité. On n'a pas besoin de marier pour ça, mais si vous êtes marié, vous avez beaucoup de chance. Priorité absolue, responsabilité. C'est ça le message du nard, voyez. Et ce nard, il s'inscrit comme s'il s'écoulait, extraordinaire, et qu'il créait quelque part le signe qui est au-dessus. C'est Ave Maria Sotella, Dei Mater Alma, Felix Dei Porta. C'est ce chant qu'on chante tous les matins après la messe. du lard, c'est-à-dire de cette prière de Saint-Joseph qui a duré 19 ans et qui exprime ce tableau. La Sainte Famille, de ce nard qui a duré 19 ans, à un Eliashim, on peut concevoir l'Immaculée Conception. La maternité divine de Marie a émané de la spiritualité de Saint-Joseph 19 ans avant sa conception. La maternité divine de Marie a été créée. Il y a eu, l'autre jour, j'ai participé avec mon frère jumeau et puis avec Alexandra, le docteur Alexandra Condorion, à une émission sur une radio d'Île-de-France. Alexandra Condorion, c'était la collaboratrice principale d'Axel Kahn. C'est une des plus grandes sommités en génétique mondiale. Et on a participé comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était beau, ça a duré 1h30 cette émission, que vous d'ailleurs pouvez écouter. Et elle a dit quelque chose de très beau, j'ai trouvé. Il y a beaucoup de choses qui sont très beaux. Mais en particulier, je retiens en ce moment une chose plus précise. C'était des choses très précises qu'elle disait. Bon, outre le fait qu'elle disait tout ce que dit le Père Patrick est absolument exact. C'est la première fois que j'entendais une chose pareille de ce genre depuis 50 ans. Je n'avais jamais entendu une chose pareille. 50 ans, je n'avais jamais entendu une chose pareille. Tout ce que dit le Père Patrick est exact. Comment pourrait-elle savoir tout ce que j'ai dit? Non, tout ce que je veux dire dans l'émission. Je disais une chose. Vous savez, si vous faites des copies d'êtres humains, vous mettez à la place de Dieu, je vais faire des copies d'êtres humains. Je vais faire des êtres humains. Ah, c'est ça, la loi de bioéthique. C'est ça, la loi de l'ONU, de 9 mars 2005. C'est ça, c'est aussi méchant. Je vais faire des copies. Et si vous faites des copies, mais ce ne sera jamais une copie. Je ne sais pas ce qu'a écouté cette émission. Mais ce ne sera jamais une copie. Parce que, pas besoin d'avoir fait médecine pour savoir ça, une petite fille, lorsqu'elle est dans sa maternelle, elle développe une grâce prévenante. Elle développe une grâce prévenante. Et ce développement en elle de cellules de fécondité, dans la signification responsable de sa maternité, et elle développe en elle, bien avant la naissance, tous les ovules de celle qui sera une petite fille, puis une jeune femme, puis une femme adulte, tous les ovules sont présents en elle. Tous. Il n'y a pas un seul qui vient après la naissance. Donc quand une petite fille naît, elle porte déjà les déterminations biologiques principales des enfants qu'elle aura. Puisque ce n'est pas le génome qui donne la détermination principale d'un être humain. C'est ce que porte la mère en 3 générations. Et c'est un ovule qui fera cet être humain-là. Bien sûr, le génome va... Mais la détermination, outre le fait en plus que la créateur de Dieu, comme je me suis permis de préciser, la créateur de Dieu qui pénètre dans l'ADN mitochondrial du voile mitotique entre les partitions qui vont exploser d'un seul coup, ou de cette détermination-là, plus ensuite la détermination du génome. Mais bien sûr, il y a d'autres conditionnements, mais n'empêche que cet ovule-là, il a des déterminations que n'aura pas la copie. La copie n'aura ni la première détermination, ni la troisième. À supposer qu'il y ait cette détermination du jeune homme. Le jeune homme n'est pas tout. Le jeune homme n'est pas tout. À lui tout seul. Hein? Non, pas du tout. Le Saint des Saints, c'est plus que ça. Dans la chapelle du Saint des Saints, vous verrez à Rome, en haut de l'escalier de Scala Santa, vous verrez, il n'y a pas que l'autel, il y a ce qui est autour. Dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, il n'y a pas que l'arche d'alliance, il y a l'espace qui l'entoure, les murs, le rideau. Et tout ce qui est écrit, vous connaissez, et je vous invite moi à lire ce que Jésus demande à Moïse qu'il y ait dans le Saint des Saints, la tente du Saint des Saints. Vous verrez, c'est impressionnant. On est à une époque aujourd'hui où nous ne sommes pas autorisés à être stupides. Et à suivre des tendances de propagande qui ne servent à rien. Si tu doutes, tu renieras. Dans le corps eucharistique du Christ, tu ne peux pas douter. L'émanation de prière de Saint Joseph dans son corps spirituel originel, pendant 19 ans, parce qu'il faut 10 ans pour que la demande de pardon dans cette miséricorde prévenante transforme, détermine, redétermine, recrée, retransfigure, transforme son corps de toute purification de l'humain présente dans les malédictions contenues dans l'humanité du passé, l'humanité actuelle et l'humanité future. Il faut à nouveau 10 ans hein, pour la mise en place du corps spirituel porté par le Verbe de Dieu. Voilà pourquoi c'est à l'âge de 19 ans, dans le nard spirituel de sa vie spirituelle, lucide, libre. Il n'était pas idiot, hein, Saint-Joseph. Vous savez, on présente toujours Saint-Joseph le niais du coin. Ah, c'est lui qui ramasse le foin. Il nettoie les crottes du lave. Prends l'enfant et ta mère. Ben oui, je prends l'enfant et ma mère. Le son du quartier. Non, mais enfin, quand même. Un peu de sérieux, je veux dire. Nous faisons partie de l'Église catholique. Saint-Père, c'est Saint-Père. L'infaillibilité, elle vient de Dieu. L'Immaculée Conception, elle vient de Dieu. L'Assomption, ça vient de Dieu. C'est l'éternité incréée de Dieu qui assume. Mais c'est vrai, écoutez, quand même, à un moment donné. C'est désolant, d'ailleurs, on dit bien, abomination de la désolation. Quand on voit certains commentaires, c'est désolant. Les gens qui sont baptisés catholiques, et j'en connais personnellement. C'est affreux, alors que c'est si facile de se mettre dans les mains de la Sainte Famille. Au bout de 19 ans, le mariage spirituel du corps spirituel venu d'en haut, accompli, est tellement présent en lui que du coup il peut être assumé. Assumé. Relisez l'encyclique du Saint-Père, le pape Jean-Paul II sur Saint-Joseph. Redemptoris Christos. Le Verbe de Dieu, de sa, le Père, le Saint-Esprit, du monde incréé, de leur vie incréée éternelle avant la création du monde, bien au-dessus du principe lui-même de la création, assume. C'est ce qui vient de la terre. Et ça a commencé avec Saint-Pierre. Il assume quelque chose de son mariage spirituel accompli, prophétique, c'est une miséricorde prévenante, ça. C'est en vertu des mérites du Christ, c'est en vertu des mérites de l'union apostatique déchirée, de l'agneau de Dieu. Évidemment, pour nous, on ne perçoit pas ça d'une manière si évidente que lui. Mais l'avantage qu'il a eu sur nous, je m'excuse de dire ça, c'est qu'il s'y est mis tout de suite. comprenez? Il s'est mis tout de suite, il y a eu ce mouvement en lui, à sa création, vers le monde du pécheur originel. Et tout de suite, un arrêt, il a fallu qu'il m'en parle. Et comme c'était tout de suite, il avait toute la force encore en lui. Toute la force encore en lui. De la royauté fraternelle de l'univers. De la lucidité, du miracle des trois éléments. Et donc, il a demandé pardon jusqu'à traverser tous les temps et tous les lieux. Il a pu recevoir directement et sans voile le livre de la vie, le Nard. Et il a pu s'en parfumer la nature humaine tout entière à travers lui. Et toutes les cellules qui se sont multipliées à partir de lui ont été informées par la grâce de l'union hypostatique transverbérante de l'agneau de Dieu. Cette phrase, cette prononciation, cette sentence que je viens de vous dire, on ne doit pas y être étranger. Et pour nous, ça doit être quelque chose de très, très, très limpide. Vous voyez, il faut que ça s'écoule merveilleusement en nous, du dedans, de ces fontaines intarissables, du retour du Père. Ah, en cette miséricorde prudente, toutes les portes sont ouvertes par le Saint-Père. Et de lui donc va émaner, dans cette assomption, quand Dieu va assumer ça, eh bien, il va pouvoir faire émaner de lui, de l'unité sponsale qui est inscrite dans le Sacré-Cœur ancré de Jésus sur la terre. Vous voyez, quand Marguerite Marie à la coque dessine le Sacré-Cœur de Jésus, elle met Jésus, Marie-Joseph, Jésus, puis Anne et Joachim. Anne et Joachim. C'est pas Anne et Joachim, le Saint-Joseph, il n'y a pour rien qu'il y ait eu Anne et Joachim. Mais par contre, que Anne et Joachim soient assumés à l'intérieur de Dieu, dans leur unité sponsale, avec toute la puissance de la sagesse créatrice de Dieu en Adam et Ève avant le péché originel, ça vient de Saint-Joseph. C'est une grâce méritoire, on appelle ça. C'est une grâce prophétique, c'est une grâce de miséricorde prévue, les trois. Hein? T'as tel sort la théologie, vous savez. Il est préférable d'avoir la sagesse théologique que d'être stupide. C'est mieux. Je parle de la sagesse théologique de l'Église infaillible. Pas des mystiques d'un jour, qui font des messages dans leurs hystériques, qui étaient avec des idées somnambuliques. Non, c'est Jésus qui a parlé. Chacun met sa sauce, et puis alors après, du coup. Moi, c'est ma gloire, c'est ma fierté. Je n'ai jamais reçu de message. Extraordinaire. Oh, ça me plaît, ça, moi. Vous verrez jamais un livre avec un message reçu. Si ça m'arrive, je dirais, Seigneur, pardon. J'en supplie. Pardon, vous ne méritez pas un châtiment aussi. Dans la parole de Dieu, de ce que le Père éternel nous demande dans l'union hypostatique de l'agneau. Alors, à la foi chrétienne. Alors, on atteint, en le Christ, on atteint la divinité incréée de l'union hypostatique des cieux de Jésus, bien plus profond que le principe de la création de Dieu sur toute chose. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, cette assomption a permis la naissance surnaturelle d'une grâce surnaturelle nouvelle. Dans l'unité sponsale transactuée d'un Joachim, sous la porte dorée du Saint des Saints. Une assomption, hein. Et du coup, comme me l'a expliqué ma Maureen, je vous l'ai dit bien des fois, comme me l'a expliqué ma Maureen, du coup, là, c'est réalisé ce que disait l'Écriture dans le livre de la Genèse, dans cette tardéma, dans cette Assomption. Parce que l'Assomption, ça vous rappelle que l'Assomption s'est produite en Marie, dans une dormition, en Adam, dans une tardéma. Et cette tardéma, cette Assomption, cette dormition, qui est une dormition, quand vous êtes assumé par Dieu, voilà, vous n'avez pas le temps de faire la cuisine, vous n'êtes pas en train de faire la cuisine. La différence qu'il y a entre le vol de l'esprit, l'extase et le ravissement. Comme j'ai affaire à des grands mystiques, vous savez tous la différence entre l'extase, le ravissement et le vol de l'esprit. Évidemment. C'est votre vie quotidienne, n'est-ce pas? Seigneur, prends pitié de nous. C'est terrible de voir où on s'est arrivé, où nous sommes arrivés, nous, les catholiques. Dans cette dégradation de la vie spirituelle qui est invraisemblable. C'est terrible. Ah, on a vraiment besoin d'une grâce prophétique, on a besoin du roi. On a besoin du roi. Vous croyez pas qu'Israël avait besoin de Saint-Joseph? La plénitude du temps est arrivée, il fallait l'Immaculée Conception. Vous ne croyez pas que le peuple d'Israël, le temps est arrivé quand même, au jour près. Au jour près, vraiment, la dernière minute, l'Immaculée Conception est apparue. Et Adam, dans sa torpeur, Dieu, dans un acte chirurgical, a pris ce qui était le plus solide en Adam, pour faire émaner l'existence et la vie et la chair de sa moitié sponsale. Et sa moitié sponsale, c'est l'Immaculée Conception. Donc il y a une affinité parfaite, surnaturellement parlant, matériellement parlant, biologiquement parlant, surnaturellement entre Joseph et son épousée. La femme est sortie de l'homme. Voilà ce que m'a expliqué ma mère. On en parlait toujours. 19 décembre. En 2012. Je suis très fier. Je suis fier d'avoir entendu ça, parce que j'y avais jamais pensé à vous. C'est bien. C'est pas bien. Parce que c'était inscrit quand même dans l'encyclique du Saint-Père, ça. De manière cachée, il fallait tirer le fil, hein, c'est sûr. Alors l'Immaculée Conception, elle était sans péché originel, il n'y a eu aucun mouvement d'elle vers le péché originel. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ça que le Saint-Père met sur ses arbres. Le nard, Ave Maria Stella, Felix Dei Porta. Et tu veux proférer un seul doute. Et ça fait émaner le fruit eucharistique de l'agneau. Voilà ce qu'il y a sur les armes du Saint-Père. Un seul troupeau, un seul pasteur. Mais comment? Comment? Vous savez, et c'est nous, quand on fait de la théologie, de la philosophie, on dit, il faut toujours poser d'abord la question qui est-il? Et puis ensuite, on peut poser la question pos. C'est Aristote. D'abord, qui est-il? Qu'est-ce que c'est? Et puis après, pos. Comment? D'abord, qu'est-ce que c'est? Puis après, pos. Comment? Et là, on a les deux. Comment on fait l'union transformante avec Saint-Joseph pour faire émaner l'Immaculée Conception dans la nature humaine toute entière du corps mystique vivant, entier de Jésus vivant et entier dans le fruit des sacrements eucharistiques, jusqu'à la fin des temps. C'est pas compliqué. Juste sur une petite arme, voilà le message du Saint-Père. Est-ce que nous avons fait ça? Est-ce que nous avons donc suivi le Saint-Père? Est-ce que nous sommes disciples de Christ sur la terre? Eh bien, oui, nous le sommes. Oui, nous le sommes. C'est pour ça que nous célébrons la messe du soir. Parce qu'on sait très bien que c'est par cette voie que sera balayée l'arrogance de l'Antichrist. Ah! Il faudra peut-être 19 ans. Pourquoi? Parce que les lois de la nature ne sont pas transformées pour autant. La matière garde son rythme. La matière inerte garde son rythme. La matière vivante aussi garde ses lois et son rythme. Et je trouve ça très beau, moi, qu'elle dise, cette docteur à la grande, vous savez, je suis porté par ma mère, pendant que je suis porté par ma mère avant de naître, je porte déjà les ovules de mes enfants. Quand je nais, 30 ans après, cet enfant-là, il a existé dans trois mères, il y a eu trois générations maternelles. Et c'est ça qui donne la détermination principale d'un enfant. C'est ce qu'elle disait. C'est pas le génome aussi, bien sûr. On ne peut pas dire que le génome, c'est-à-dire la manière dont Dieu se saisit des surabondances de la transaction surnaturelle responsable des parents pour créer, j'allais dire, une liberté nouvelle. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est vrai, hein, d'Abraham, cet écoulement merveilleux, merveilleux, merveilleux jusqu'au roi David, jusqu'à Joseph. Jusqu'à la conception de Joseph. On voit, c'est révélé dans le saint Matthieu et dans sa Bible que ça arrive là. C'est inouï ce qui s'est passé. Ça vient d'Abraham, c'est sûr, sur mille générations. Bien sûr, c'est évident, on est d'accord qu'il y a quelque chose qui vient. Qui dans le génome inscrit, j'allais dire, une capacité à être inscrit immédiatement, comme dit le pape Jean-Paul II dans l'évangile de l'humilité, à être inscrit immédiatement dans le livre de la vie et de l'accomplissement du oui, de la volonté à créer éternelle de Dieu pour la nature humaine tout entière, et que ce oui va s'exprimer librement en nous. Vous voyez, l'appel du Saint-Père. L'appel de Marie, l'appel de Joseph, l'appel de la Sainte Famille, l'appel du jubilé, c'est quoi? Mais c'est qu'on rentre dans le domaine spirituel de l'incarnation, du oui, du fiat éternel de Dieu. Il faut qu'on rentre dans le Noël glorieux. Tu es là. Il faut qu'on rentre dans la nouvelle gloire. Et c'est pour ça qu'on célèbre la messe du soir. Hein? Voilà. Je vous demande pardon. Ce n'est pas la messe, c'est juste l'introduction. Et en plus, je ne vous dis rien de nouveau par rapport à ce que vous avez déjà entendu. Mais quand même, on se rappelle de ça, on fait mémoire de ça, c'est-à-dire on rend toutes ces choses-là présentes en nous. Parce que sinon, comment est-ce qu'on fait, comme Saint Joseph, 9 mois avant la naissance, pour demander pardon dans la nature humaine tout entière, dans le sein des saints. La présence paternelle vivante de Dieu, métaphysiquement présente, de manière vivante aussi. Il n'y a pas que la métaphysique, hein. Il n'y a pas que le devenir substantiel, il n'y a pas que le principe créateur, hein. Il n'y a pas que l'un, n'y a pas que la lumière, il y a aussi la mort. Il y a les cinq. Et il faut qu'on puisse rentrer là-dedans. Il faut qu'on puisse rentrer dans notre vie. Il faut accepter ce que nous sommes. Et il faut qu'on rentre dans cette mémoire. D'ailleurs, l'Eucharistie, je vous le rappelle, et on se le rappellera jamais assez. Jésus le dit comme un impératif absolu. Faites ceci en mémoire de moi. Dans le premier instant de ce oui originel, au fiat éternel, de la volonté agréée du Père, parce que Jésus est Dieu. Et il faut qu'on soit dans cette mémoire du « Je suis agréé de Dieu ». Lorsqu'il dit oui à la volonté agréée du Père dans l'union hypostatique, d'où on doit émaner à l'intérieur du temps le monde nouveau de la Jérusalem glorieuse. Ça, vous voyez, c'est un petit résumé très sympa de l'apparition de Jésus à ton sujet.
Thank you.